Bonsoir, bonsoir.
Il est là, Sébastien, t'es tout seul, chroniqueur ce soir dans l'imaginaire.
En effectif réduit, là je vous contais l'histoire d'un commercial qui est tiré d'une AVH amateur, Romain.
C'est quoi une AVH?
C'est une aventure dont vous êtes le héros, donc voilà. Écrite par un amateur et qu'on retrouve gratuitement sur litteraction.fr. Et c'est la maison des horreurs, parce qu'on approche Romain d'Halloween.
Ouais, parce qu'en fait, si on faisait dans deux semaines, notre prochaine émission tombait le 1er novembre. Donc finalement, notre émission Halloween, c'est maintenant.
Et oui, et là, c'est vraiment une très bonne AVH. C'est une préquelle, en fait, qui est traduite de l'italien. Une préquelle du cultissime... Le manoir de cultissime livre horrifique, Le manoir de l'enfer, donc de Steve Jackson, paru en 84. Et s'il y a des ressemblances frappantes entre les deux œuvres, il n'en demeure pas moins que La maison des horreurs, qui est aussi appelée Le manoir de l'enfer 2, alors que c'est une préquelle, eh bien, elle possède cette aventure, son atmosphère propre. Et on retrouve toujours, Romain, la fameuse peur maximale que si on l'atteint, on meurt de peur. Est-ce que ça va être mon cas tout à l'heure? On va le voir.
Et moi, je vous ai fait une petite sélection de musique assez halloweenesque. Et puis, on va parler aussi de pas mal d'événements là, en fin d'émission qui arrivent dans les jours, semaines à venir, notamment les Utopia, le gros festival de la SF, gros festival francophone, qui déroulera à Nantes à la fin du mois. Allez, c'est parti pour notre nuit en enfer sur le 101.5.
Bye.
S'écouter deux morceaux un petit peu horrifiques dans l'imaginaire sur le 100.5. Un morceau qui datait de 1988 et un qui est sorti la semaine dernière. D'après toi, c'était lequel et lequel?
Mais un piège, je dirais que le non. Premier est sorti plus tôt.
Non, c'est l'inverse. Le premier est vraiment sorti la semaine dernière. C'était le premier morceau qui a été dévoilé pour faire, on va dire, la BO d'un jeu de rôle qui s'appelle Hell Knight. Jeu de rôle de Gabriel Kirova, c'est un Argentin. C'est son troisième jeu, je crois. Il avait commencé par Neurocity, qui a été écrit en anglais quand même, qu'on trouve peut-être en PDF, c'est drive. Je crois que ça n'a pas été édité en papier, je crois. Et après, il a fait Warpland, qui lui est sorti en français chez Pattern Recog. Jeu plutôt post-apo de science fantasy. Et puis là, son petit dernier, qui a été aussi financé en financement participatif, s'appelle Hell Knight. Moi, j'ai participé à ce truc. J'ai déjà le PDF, les livres sont en train d'être imprimés, donc c'est pas encore sorti. D'ailleurs, Pattern Recog, je crois, a mis une option aussi pour le traduire en français. Bon, ce sera probablement pour 2023. Et donc, Hell Knight, le pitch, moi, m'a bien plu. On incarne des démons. Ça commence en enfer. Alors, Satan s'est éclipsé, on sait pas pourquoi. Et du coup, c'est un petit peu la fête du slip à l'étage inférieur. Et certains démons se disent, tiens, si on allait mettre un petit peu le bazar sur Terre aussi. Et ça plaît pas du tout aux anges. Qui essaye de réguler un petit peu tout ça, et donc ils reviennent en enfer missionner donc les PJ pour qu'ils aillent rechercher leurs collègues démons et les ramener, en fait, qu'ils aillent chercher à la surface de la Terre, qui est donc en pleine année 80. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils vont nous faire une belle BO plutôt hard FM, quoi. C'est un peu la musique qu'on entendait souvent quand même dans les films d'horreur des années 80. Et le jeu s'inspire beaucoup du cinéma d'horreur. Alors ça a l'air assez rigolo raconté comme ça, je sais pas trop. Alors c'est aussi un jeu de moto, hein. C'est pour ça qu'on a entendu d'ailleurs un petit démarrage de moto. Et il y a plein de trucs qui ont l'air assez marrants. Il y a une classe de personnages qu'on peut incarner qui est justement qui s'incarne au hasard en fait dans le corps de terriens. Donc tu peux arriver dans le corps d'un vieux prêtre comme dans celui d'une gamine de 8 ans, quoi. C'est pas que tu ne joueras pas de la même façon forcément. Et donc tu dois suivre la trace des démons en fait. Bon, en même temps c'est assez facile, hein. Apparemment ils mettent un petit peu le bazar et donc après les ramener. Et donc le morceau est sorti sur YouTube là cette semaine et ils ont annoncé une bande originale complète chez Heimat der Katastrophe, label qui avait déjà sorti en cassette la BO de Warpland. Et donc je sais pas pour quand c'est prévu. Et alors c'est signé Dungeon Dolls, mais on sait pas non plus qui a fait cette espèce de pastiche de hard rock des années 80. Et le morceau d'après, lui par contre, c'était un vrai morceau de 1988, c'était la BO de Night of the Demons, qui était ça se passe à Halloween. Et alors c'est une comédie horrifique et oui. Tu l'as vu toi? Moi j'ai vu
les deux. Il y en a un qui se passe dans un cinéma qui m'a plus marqué, moi.
Tu confonds pas avec Démon, le film italien, plutôt?
Alors, je dois confondre avec Démon,
ouais,
alors.
Ouais. Ça a l'air de... C'est un petit peu plus tardif, ça. Il y a quand même eu 4 épisodes, apparemment. Et là, le premier, c'était le frère du réalisateur, Dennis Michael Tenney, qui faisait la BO, et c'est sorti en cassette, il y a quelques années, chez Lunaris Records. Je voulais aussi vous parler de certains, label qui édite des musiques de films horrifiques. Il y en a deux qui sont très connus actuellement, c'est Mondo chez les Américains d'Austin, et puis Waxwork aussi, qui sortent vraiment des beaux vinyles où ils refont les pochettes et tout. Mais il y a eu quelques petits labels aussi un petit peu spécialisés dans le genre, et Lunaris qui fait plus grand chose, mais il y a quelques années était assez bon. Ils ont sorti une quinzaine, je dirais, de BO à tout casser, dont voilà certains au format cassette, hein, pour faire bien 80s. Eh ben, on va passer à ta chronique, Sébastien. Je te retrouve, ton générique, il est par là. Ah.
Alors, je vais vous conter donc l'histoire du commercial qui se prénomme Jacques Bette. Alors moi, Jacques Bette, je suis parti la nuit faire une présentation de placement boursier au comte Pravemi. Or, ce dernier est propriétaire au fin fond de la campagne italienne d'un vieux manoir de 2 étages nommé Orvieto. Or, je suis très bien accueilli par le majordome et le comte, qui en signe de bienvenue sortent les bonnes bouteilles. Personnellement, j'opte pour un onctueux Porto. Non, Romain, il n'y a pas de poison à l'intérieur. Sinon, il y avait aussi de l'eau minérale, mais bon, autant profiter.
Tu n'avais pas le choix entre un vin rouge et un vin blanc.
Alors, non, tu vas bien, tu te souviens bien, dans le manoir de l'enfer, là, il y a au moins le Porto, le Brandy, un vin blanc de Chablis, de l'eau minérale, un café et un club soda, tout ça de mémoire. Bon, là, on est vraiment, c'est royal, l'accueil royal. Et en plus, une chambre douillette où me reposer mes destinées. Comme le comte, un rien maniéré, ne m'attendait pas tout compte fait à une heure indue. C'est vrai que j'arrive sur les coups de minuit. Et notre rendez-vous d'affaires est reporté à l'aube, avec un argument de plus pour ça avancé par le comte. Maintenant, mon ami, peut-être pouvons-nous nous faire pardonner pour ce malentendu. Comme je vous l'ai dit, j'attends des invités de marque et ce serait pour moi un grand embarras d'avoir à leur dire que leur voyage fut vain. Par conséquent, je suis prêt à vous rémunérer de façon fort respectable, si vous acceptez de rester cette nuit et quelques heures demain. Bon, alors comme le moteur de ma voiture a lâché et que je suis tombé sur une dernière station d'essence au nom étrange de Chris, bon, à sec en raison des raffineries en grève, je suis bien obligé de dire oui à l'invitation du comte. Qui aurait un rôle tout trouvé dans un film d'horreur de la Hammer, me dis-je intérieurement. Et Pravemi, c'est un anagramme de quel autre mot, Romain?
Alors, je te pose une colle. Ça, comment, là? Je regarde dans tes fiches. Pravemi, tu m'as dit?
Pravemi.
Non, je vois pas du tout. Il y a bon.
Vampire.
Ah ouais.
D'où la référence à la
effectivement. Mère. Je suis pas bon en énigme.
Inconscient que je suis, pourtant j'aurais dû tiquer sur un détail troublant que m'apporta un portrait photo de la fille du comte, Cassandra, brutalement morte très jeune, avec la date d'obsèques indiquée sur le portrait photo de 1923. Comment se fait-il que preuve mue au XXIe siècle soit encore de ce monde, sans porter les stigmates de la vieillesse? Dans quoi me suis-je fourré? Alors peut-être que le porto aussi m'est monté à la tête, parce que j'ai vraiment un train de retard et vous allez le voir que ça va pas s'arranger. Alors malgré le confort de ma chambre, le cœur battant, je quitte très vite les bras de Morphée à cause d'une vision cauchemardesque. Celle de mon corps pendu. De mauvaise surprise en mauvaise surprise, un spectre de femme se matérialise dans ma chambre et va me révéler de sinistres choses sur Pravemi. Pravemi, votre hôte, vous a souhaité la bienvenue en sa demeure, mais vous ignorez tout des ténèbres en son cœur. Cette demeure consume tous ceux qui ont l'infortune de pénétrer entre ses murs. Je suis un héros quand même, là je deviens le héros de l'histoire, et je prends la résolution de libérer toutes les âmes captives du manoir en vainquant le comte, à l'aide d'une arme unique, cachée quelque part dans une chambre secrète, que seul un certain mot de passe ouvrira. Tiens donc, une chambre cachée, comme dans mon livre du chevet du moment, le roman interactif « Hôtel silencieux » de Benoît Patrice, conseillé par les amis d'Imaginaire. Alors j'ai en prime une première moitié d'indice donnée par le spectre. Chercher le chat, Romain d'après toi, facile, chercher le chat, C-H-A-T.
Non, je vois pas moi.
Alors moi j'avais tout de suite deviné, château. Alors ça semble couler de source. Alors moi, à partir de là, je ne vais pas suer sang et eau, comme dans le livre-jeu Le Manoir de l'Enfer de Steve Jackson. Je vais pas mettre 20 à 30 ans pour le finir. Je vous le dis. Mais de quel château au fait? On est comme dans un manoir. C'est pas un château de cartes? Bon. Alors déjà que je dois être sur mes gardes, car beaucoup des occupants du manoir sont des affidés du comte à la tête d'un clergé démoniaque cagoulé. Soyez bénis, me dit le fantôme. Voici ce que vous devez savoir. Cette maison entière existe pour servir le mal. Et Pravemi est le grand prêtre de l'ordre. Le fantôme disparut. La porte de ma chambre s'ouvre alors. Je remarque dans les couloirs traversés à pas de loup qu'il y a par moments des plaques de porte gravées avec des mots italiens. Manque de bol, je n'ai pas fait italien au collège.
deux extraits de BO Halloweenesque hein, dans Imaginaire sur le 100.5 ce soir. D'abord, c'était Jim Manzi avec From a Whisper to a Scream, qui était un omnibus, on pourrait appeler ça. Enfin, c'est un film à sketch, je veux dire. Film à sketch horrifique de 88, je crois, avec Vincent Price dans le rôle principal, qui faisait un peu le lien entre les différentes petites histoires.
Un peu dans le style de Creepshow.
Ouais, et ça c'est ressorti chez un autre éditeur américain, Terror Vision, qui sort, eux qui sont toujours actifs, qui sortent des BO de films d'horreur plutôt en cassette et en vinyle, ils font pas trop de CD. Et puis le deuxième morceau là à l'instant, c'était l'Alouchifrine avec la BO de Tales from Halloween, qui est aussi un omnibus. Mais là par contre, en une heure et demie, il y a 10 histoires faites par 10 réalisateurs différents. Et donc le générique, on va dire, du film, enfin le title track, était signé l'Alouchifrine, et je crois que c'est un des derniers morceaux qu'il a composé pour le cinéma. Il est toujours vivant, hein, en fait. Mais plus très actif. Bon, après, je crois qu'il a 89 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà. Bon, on retourne à ta chronique, Sébastien.
Oui.
On va tourner une petite porte dans l'imaginaire sur le 101.5. Oubliez une porte.
Alors, je pénètre dans un bureau. Je vais bien ramasser quelque chose d'autre. Après, en chemin, une clé de fer, 66, pas 666, ainsi qu'une bonne dague en main pour me défendre. Ah ! Que vois-je ? Une rapide bestiole qui court sur un mur. Comme c'est bizarre. Pas de quoi tourner Kazakh, car ce n'est pas la petite bébête qui va manger la grosse. Mais, bon Dieu, et c'est en fait une main humaine. Coupée ? Qui se muse sur ses doigts avec agilité. Elle me saute à la gorge. Je poignarde, fou de terreur, le dos de cette main spectrale. Mais même pissant le sang, elle regigote sur le sol. Il faut que je m'échappe de cet enfer. Et que j'évite une crise cardiaque sur le 101.5 FM. Alors, une nouvelle chambre, tranquille de prime abord, s'offre à mes regards. Alors jusqu'ici, cependant, les pièces en danger se comptent sur les doigts d'une main. Cette salle renferme un lit proprement fait, un coffre, un bureau portant un chandelier allumé et une porte qui doit donner sur un placard. Tiens, alors sur le bureau, il y a la très belle couverture d'un roman « Milano Sanguina » de Julien Calderoni. Tiens donc, toujours des bruits s'entendent pour le pire, comme dans la salle Stringiamano comptée là juste avant. Non. Le placard, une fois ouvert, vomit un corps décapité. Ce dernier, perdu sans sa tête, se dirige vers le coffre, qui n'arrive pas à ouvrir, puis réintègre l'armoire. Quelle vision inquiétante. Une boîte à clowns ne m'aurait pas tant épouvanté, les amis. Je me remets que difficilement de mes émotions, parce que les chandelles à l'instant, qui éclairent la chambre, se sont elles-mêmes mises à flotter dans l'air. En guise d'avertissement, une fois que je farfouille dans le bureau. Mieux vaut que je prenne la poudre d'escampette, si tout dans cette pièce respire la diablerie. La diablerie? Mais, comme le signalait la plaque intitulée « Diavoleria ». Quel parfait idiot je fais. Tant pis, j'abandonne, je vais quitter le manoir, même rentrer à pied, même si ma voiture elle est à sec. Hein. Mais un nuage noir puré me barre l'accès à la sortie. Un nuage noir sans forme. La pièce, tel un piège à loup, m'a-t-elle pris dans sa mâchoire pour ne jamais plus me recracher ? Que m'arrive-t-il ? Je me sens tout d'un coup bien faible, comme si une invisible sangsue aspirait mes dernières forces. Oh, le nuage noir me pénètre.
Thank you.
Sombre Arcane dans Imaginaire sur le 100.5. Un morceau qui s'appelle Ancestral Seat of the Barovian Scourge. Bon, ça fait référence à toute la mythologie de Ravenloft, qui est un genre de sous-monde gothique dans Donjons et Dragons. Sombre Arcane est un groupe qui est très fan des Royaumes Oubliés. D'ailleurs, le logo du groupe est complètement pompé sur le logo de cette série de suppléments pour Donjons et Dragons, mais après dont on a fait des romans et puis aussi des BD.
Énormément chez Fleuve Noir.
Là. Ouais, c'est vrai que c'était sorti en France chez Fleuve Noir. Et là, le morceau était extrait d'une compilation qui s'appelait The Reliquary of Terror, qui est sorti il y a 2 ans, bah, juste avant Halloween en fait. En 2020, et alors plutôt la scène Dungeon Saint américaine, et elle est en prix libre, donc vous pouvez trouver ça sur la page Bandcamp du label Rote Records, Rote W-R-O-U-G-H-T, voilà. Et puis on était en train de parler de actu un peu de la littéraction. Tu peux nous reparler un peu de cet AVH qui t'a inspiré là, ta chronique narrative?
Bah justement, là, je voulais essayer quelque chose de nouveau, comme c'est de la littérature interactive. Bah, je voulais aussi démontrer que ça se vit, qu'on pouvait justement avoir différentes histoires tout en incarnant des personnages différents. Alors là, le cas de Jacques Bette, c'est un personnage prétiré du Manoir de l'Enfer. Donc c'est un personnage qui existe. Et pourquoi je l'ai pris? Parce qu'il a sa peur maximale à 11.
Alors ça, c'est vrai que la peur, c'était une nouveauté, il me semble, dans les défis fantastiques qui étaient arrivés avec le Manoir de l'Enfer.
Alors dans le Manoir de l'Enfer, c'est donc le total de peur donc qui apparaît. En fait, t'as la peur maximale, donc c'est bien de l'avoir très haut. Donc on a 6, puis on lance un dé, donc on peut avoir jusqu'à 12. Là, dans le cas de Jacques Bette, c'est 11. Et suite à des rencontres effrayantes, on peut augmenter donc son total de peur qui démarre à 0, de 1 à 3. Donc, sachant qu'on prend directement 2 points de peur en voyant le spectre donc du fantôme, que je vous ai raconté donc mon entrevue avec elle. Et après, bah, il va falloir essayer de ne pas trop faire de rencontres qui nous font monter le cœur jusqu'à éclater, parce qu'autrement, on meurt de peur. Si j'atteins 11, je meurs de peur. Mais à des moments, on peut avoir une bénédiction qui permet de revenir à 0. Et t'as des pièces, en fait, où il se passe que tu n'augmentes que ton total de peur.
De vrais pièges, quoi.
De vrais pièges. Il n'y a rien. Moi, j'ai même affronté mon reflet dans un miroir.
Ouais.
Même habileté, même endurance. Il y avait un bureau et on trouve quelques pièces d'or. Emportez-les si ça vous chante. Donc à des moments, on se dit, mais c'est bon Dieu, c'est pas possible. Et il y a des fois des objets vitaux. D'autres, c'est des pièges, comme la diablerie. Et c'est ce que j'aime vraiment, là, dans le Manoir de l'Enfer 2. Plutôt, l'après-quel, la Maison des Horreurs. Comme dans le Manoir de l'Enfer, c'est que, on ne sait pas à quoi s'attendre. Et c'est un OTP, certes. Comme le Labyrinthe de la Mort.
One True Pass.
Un One True Pass. Il y a qu'un seul bon chemin, mais c'est un bon One True Pass dans le sens, on a envie de vraiment d'y revenir, tellement les rencontres sont vraiment saisissantes. Et là, ça fout la frousse.
Ok. Et donc, on la trouve où, cette AVH?
Alors, c'est une AVH. Donc, je remercie le traducteur, The Oiseau, ouais, qui est aussi l'auteur de séries remarquables, dont une qui se passe dans l'univers de Loup Solitaire, Neige d'automne. Donc, je crois que tu aimerais énormément, Romain. Et donc, c'est traduit de l'italien, plutôt bien traduit, et c'est gratuit sur l'interaction. Et il y a d'autres aventures amateurs, de tout type. Là, c'est un 400 paragraphes.
Ouais, quand même, ouais.
Et par contre, il n'y a pas de lien cliquable. Mais comme ça fait que 96 pages, c'est des paragraphes assez courts, donc pour justement garder l'aspect tension. Donc ça se fait bien, et je vous dis, vous alliez passer plusieurs heures avec grand plaisir.
Ok. Et le Manoir de l'Enfer, donc lui, on le trouve d'occasion encore. C'était sorti chez Gallimard dès 1984.
Oui.
Je me demande si ils auraient pas piqué ça dans l'Appel de Cthulhu un peu, cette histoire de jauge. Enfin, dans l'Appel de Cthulhu, c'est plutôt sa santé mentale qu'on est censé gérer. Mais bon, c'est un peu la même chose, quoi. Il y a des moments où il faut pas trop aller voir parce que voilà, on perd en santé mentale et on peut devenir fou au bout d'un moment et on n'est plus bon à jouer quoi.
Mais c'est ce qu'on va retrouver dans d'autres tomes à paraître d'une collection donc d'horreur que j'adore, Shoes of Cthulhu, dont tu as des numéros, Romain.
Ouais.
Et à un moment donné, donc on a justement cette jauge de santé mentale qui apparaît.
Et donc, combien 4 ou 6 tomes sont déjà sortis en France?
Il y en a 4 et ouais. J'en ai fait une chronique pour le site Imaginaire de la Cité Imaginaire, sans nom, qui est un des plus, on va dire, ludiques des 4.
Ok. Moi, je voulais mentionner aussi un livre dont vous êtes le héros, on va dire, dont le financement sur Kickstarter a commencé aujourd'hui. Ça s'appelle You Nameless Come. Et c'est fait aussi par un Italien qui s'appelle Rinaldo Agostini, donc quelqu'un qui avait déjà écrit des suppléments pour Murgborg, donc jeu médiéval fantastique horrifique dont je vous avais déjà pas mal parlé dans cette émission. Et là, il vient de lancer donc son projet de livre-jeu en fait hein, dans l'univers de Murgborg. Et donc vous pouvez retrouver ça sur Kickstarter. Lui prévoit 220 paragraphes. Hein, voilà. Et sinon, puisqu'on parlait de l'actualité de des choses interactives, as-tu vu que il y avait un film interactif qui avait été diffusé au Festival du film britannique de Dinard, s'appelle The Gallery.
Oui, j'ai lu un article dessus. Alors que c'est une expérience qui m'a l'air d'être bien intéressante, sauf que j'ai peur par rapport à des épisodes de séries interactives sur Netflix, que comme c'est des choix collectifs. Eh bien, ça, les personnes veulent en majorité que le personnage y meure en fait. Ils veulent pas forcément la bonne fin.
Donc c'est un thriller anglais qui vient juste d'être réalisé, The Gallery, parce que en fait, alors en plus, il se passe à deux époques différentes. Et à chaque fois, dans chaque époque, il y a une prise d'otage, et c'est les mêmes comédiens, mais dans des rôles différents. Et donc, je sais pas, toutes les 3 minutes, quelque chose comme ça, apparemment, le film se met en pause dans la salle de cinéma, et le public vote, alors en agitant au-dessus de sa tête des petits bracelets, enfin, je sais pas comment t'appelles ça, les petits trucs phosphorescents qu'on donne des fois, tu sais, dans les boîtes de nuit, tu vois.
Oui.
Donc t'en as, je sais pas, une partie de la salle, tout le monde a les deux, en fait, genre du vert et du rose. Et à un moment, hop, on agite son petit bracelet de la couleur qui correspond à un des deux choix sur l'écran. Alors après, je sais pas, est-ce qu'il y a des genres d'arbitres dans la salle de cinéma pour compter le nombre de couleurs, ou je pense pas que ça se fasse de façon automatique, enfin.
Ça me rappelle une expérience lorsque j'étais plus jeune au Futuroscope. Si tu te souviens aussi, il y avait une sorte de film interactif où on avait un boîtier.
Ah oui, d'accord.
On devait décider aussi des choix.
Bon, il faudrait que les salles de cinéma s'équipent et qu'il y ait plus de films comme ça qui soient faits. Après le film, on peut aussi le faire chez soi parce qu'il est dispo sur des consoles de jeux et même en tant qu'app sur une smartphone. Mais je pense qu'au cinéma, c'est quand même plus marrant. Bon, même si, je sais pas, peut-être l'expérience prend un peu plus de temps. Voilà, on s'écoute encore un petit peu de musique dans l'imaginaire sur le 101.5 et puis on va passer à la rubrique agenda. Alors là, on va voyager. Alors on va rester un petit peu dans le mystère quand même, parce qu'on va commencer avec Monk Tong. Et eux, ils ont fait la bande originale d'un livre aussi. Alors un livre qui s'appelle, je sais plus exactement le titre, The Mysteries of Taiwan, quelque chose comme ça. Il y a eu 2 tomes d'ailleurs de sortie. C'est plutôt un livre un peu touristique avec beaucoup de photos sur des choses un peu étranges qu'on peut trouver à Taïwan, des espèces de statues bizarres, des choses un peu étranges qu'on trouve dans des temples. Et donc Monk Tong, duo en fait de musique que j'aurais du mal à qualifier, qui sont taïwanais, ont fait la BO en fait du livre, et on peut trouver les deux en fait sur le site de leur éditeur, enfin leur label, c'est un label franco-chinois qui s'appelle VW Sorcerer, et on va commencer par s'écouter un extrait de cet album. We'll be right back. voyager dans l'imaginaire sur le 100.5. D'abord un petit tour à Taïwan avec Mongtong, et puis là on était au Bénin avec Mdou Mokhtar.
Niger.
Ah oui, t'as raison.
Niger, ouais.
Oui, bien vu Sébastien. Ouais, c'est vrai.
Que je voulais faire écho aux Odyssées africaines, là, qui se passent depuis le 14 octobre jusqu'au 24, donc à Angers, avec plein d'animations culturelles, dont des concerts
au Shabada.
Donc, et ça permet d'avoir un regard différent sur la culture plurielle de l'Afrique.
Ok. Et alors dans l'agenda, on continue. Ce week-end, tu iras faire un tour au Grand Sceau.
Oui, samedi soir. Donc le Grand Sceau, c'est un festival tout jeune. C'est la 3e édition, si je me trompe. Et ce que j'aime bien, c'est que ça investit donc le samedi soir l'abbaye du Ronceret, qui est un magnifique endroit avec des groupes émergents de pop, et celle qui a fait l'affiche.
Candice Roger,
ouais. Donc qui va faire l'affiche de notre prochain salon.
C'est un scoop que tu viens de dévoiler, la personne n'est au courant, mais ok. Et qui sera aussi la couverture de notre livre. Vendredi, samedi, c'est ça, ouais. Le Grand Sceau. Donc dans des lieux en fait du patrimoine, mais qu'on transforme en salle de concert pop, quoi. On avait un autre truc à annoncer aussi. C'était une espèce de conférence du laboratoire des imaginaires de notre ami Manon Tardy, qu'on avait déjà eu dans cette émission.
On a eu en interview.
Ouais, parce qu'elle a un projet de livre-jeu érotique.
Voilà, qui se passe dans la jungle amazonienne. Et je pense que c'est un livre là qui est en bonne avancée.
Ok. Et là, donc, avec son association, le Laboratoire des Imaginaires, ils font participer à une animation, alors qui sera à Rennes, mais aussi en visio. Ça s'appelle Pilule Bleue ou Pilule Rouge, le choix dans les cultures de l'imaginaire, et ce sera le 28 octobre. Et je vois que Manon animera notamment un atelier autour du livre dont vous êtes le héros. Création, donc, en direct d'une nouvelle. Voilà, interactive.
Donc elle pourra nous en raconter plus, pourquoi pas, le 1er novembre, lors de la prochaine émission.
On va vous laisser, on a un invité dans la prochaine émission, c'est qui ?
Oui, alors ce sera Voyageur Solitaire, donc qui est l'auteur du livre interactif Les Tambours de Chamanka, donc qui se passe dans une Afrique un peu fantasmée. Et à la base, c'est une AVH, donc qui était sur l'interaction et qui a été justement couronnée par un prix, et qui a été en plus après donc édité par Posidonia Alkenost.
Alors rendez-vous dans 2 semaines, le 1er novembre, dans Imaginaire sur le 101.5.
Bye bye.
On écoute les voix du scénarium.
101.5 FM.
Le scénarium est la matière dont on forge les histoires, mais également le lieu où elles se déroulent et prennent vie. Écoutons et parcourons ensemble les voix du scénarium.
Choisis la pilule bleue et tout s'arrête. Choisis la pilule rouge, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.
Bienvenue dans ma demeure. Entrez ici de votre plein gré.